J'aimerais vous parler un petit peu de la situation actuelle. Le 11 mai en France, ça a été une très très grande date. La date du déconfinement. J'ai cru comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, au lieu de lui dire Shana Tova ou Lagba Omer Sameach, on lui dit bon déconfinement. Et j'aimerais vous dire quelques tout petits points à ce sujet. Le premier point que j'aimerais vous dire, j'aimerais vous rappeler une halakha très très claire. En général, j'aime pas du tout parler de cette halakha-là, parce que j'ai peur que ça fasse des dégâts. Mais dans cette situation-là, je pense qu'il faut rappeler cette halakha. J'ai eu beaucoup de coups de fil et de questions de gens qui m'ont appelé de France et qui m'ont demandé « Est-ce que vous conseillez maintenant d'aller prier dans les synagogues ou pas ?» Ça y est, il n'y a plus de confinement. Visiblement, les synagogues, elles vont pouvoir très très bientôt être ouvertes. Est-ce que vous conseillez d'aller prier ou pas ? Avec en fait, en plus, le fait que beaucoup de gens en France n'ont pas de masque, parce qu'en France, il paraît qu'il y a plus d'amendes que de gens qui ont des masques. Mais en tout cas, il y a un grand problème. Et est-ce que vraiment on conseille d'aller prier au Beit HaKnesset en ce moment ou pas? Et dans les Kolelim, pareil. Et tout type de questions de ce genre-là. Alors, il y a une halakha que j'aimerais vous rappeler. Sachez que notre vie, elle n'est pas entre les mains de Macron, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a confié. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse extrêmement attention à notre vie, plus qu'à toute chose au monde. Donc même si M. Macron, pour une raison ou pour une autre, il a décidé qu'on pouvait ouvrir les Beit HaKnesset et qu'on pouvait ouvrir tout type d'autres choses, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? On va au Beit HaKnesset pour Akadosh Baruch Hu, aussi un peu pour papoter, ça je ne vous le cacherai pas, mais on va pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tzadik, Saif Tet. Le Shulchan Aruch il dit « Yishtadel Adam leitpalel bebet HaKnesset im atzibur ». On ne peut pas être plus clair que ça. Yishtadel, entendez bien le terme, Yishtadel Adam, l'homme il doit faire un effort, Yishtadlut, il doit faire un effort de prier au Beit HaKnesset avec le Tzibur. De là, de très très grands poskim viennent et disent, c'est pas une obligation formelle de prier en Tzibur. C'est pas une obligation formelle, c'est une Yishtadlut. Il faut essayer d'aller prier en Tzibur. J'ai horreur d'enseigner cette halakha-là. Pour une raison très simple, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'entendre et qui vont dire « Bon, ça va, alors c'est pas la peine d'aller. » Le Rav, il a dit « C'est qu'une ishtadlout, alors c'est pas la peine d'aller. » Il y a plein de cas au passage dans la halakha, dans le Hafetz Chaim, il y a plein de cas dans lesquels on voit qu'il y a des gens qui sont dispensés d'aller prier Beit Tzibur. Si quelqu'un il va avoir une perte d'argent s'il va prier au Beit HaKnesset avec le Tzibur en collectivité, eh ben il peut prier à la maison. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Je parle pas d'un manque à gagner, je parle d'une perte. Il y a une Gemara qui raconte qu'il y a un rave un jour qui n'a pas été prié en Tzibur. Et l'autre, il lui a rencontré et dit « Ah, où tu étais ? Ah, t'as prié en bas de chez toi ?» Alors, je sais pas, tous les gens, ils ont en bas de chez eux. Leur maison, c'est en bas de chez eux. Je sais pas, il est où le en bas, il est où le en haut, mais... Alors, il lui dit « Non, j'étais fatigué. » Regardez là-bas le terme « tâche kochi ». J'étais fatigué. Même quand t'es fatigué, bon, c'était tunisien hein, qui était fatigué, c'est-à-dire qu'il était mort, tu pouvais déjà l'enterrer, mais non, il était fatigué. Il n'avait pas la force d'aller. Si c'était une obligation formelle, il n'aurait pas dit « Je suis fatigué ». D'aller prier au Beit HaKnesset, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas une obligation formelle. C'est la raison pour laquelle, dans la situation actuelle, pour l'instant, on est vraiment en essai. On est vraiment en essai parce que, vous voyez bien, par exemple, en Israël, ils ont commencé au fur et à mesure à réouvrir ici et là-bas. Et ils ont dit, attention, on va ouvrir, mais on va voir ce qui va se passer. 2 semaines d'essai, c'est possible qu'on va devoir refermer. Et au passage, beaucoup de pays du monde ont dit qu'il fallait prendre exemple sur Israël, dans la façon dont ils ont été capables de gérer cette crise-là du corona. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi en France, ils ont décidé d'un coup que le 11 mai, c'était une date magique, que tout devenait autorisé, qu'il n'y a plus rien, que c'est plus la peine de faire attention à quoi. Et ça ne m'intéresse même pas de savoir pourquoi ils l'ont fait. Mais j'aimerais juste vous dire, pendant cette période d'essai dans laquelle on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas s'il va pas y avoir à nouveau malheureusement des centaines de morts à cause de cet essai, on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est évident, c'est sûr, c'est certain que Retzon Hashem, c'est pas qu'on aille pour l'instant au Beit HaKnesset. Je parle pas encore du Beit HaMidrash, dans lequel il y a malgré tout le Inyan de Limoud Torah et tout, je parle pour l'instant du Beit HaKnesset. D'aller à la synagogue, en ce moment, à mon avis, c'est sûr et certain que c'est pas Retzon Hashem d'aller, c'est ce que le Rav Asher Weiss aussi m'a dit et a dit de répéter en son nom, c'est quelque chose qu'il faut savoir absolument et qu'il faut bien comprendre. Ça c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que dans cette période-là, on est malgré tout dans une période de transition. Parce que visiblement, on n'est pas des devins, mais visiblement, au fur et à mesure, les choses vont commencer à se réouvrir. Et on va enfin pouvoir retrouver le Beit HaKnesset. Or, j'aimerais vous dire le sentiment que j'ai eu pendant cette période-là et qui continue à m'habiter maintenant. Je me rappelle quand j'étais petit, tout petit, tout petit, 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 j'allais à la synagogue, puis je passais mon temps à aller demander des bonbons à monsieur un tel, et à discuter avec un tel, et à aller dans la cour de récréation. Le problème, c'est que je croyais que la cour de récréation, c'était la synagogue elle-même, donc je dérangeais. Un jour, mon père, il m'a dit, ça, tu viens plus au Beth Knesset. Fini, t'es trop petit. Après, j'ai un peu mûri. Pas beaucoup, hein, vous voyez où j'en suis aujourd'hui, donc pas beaucoup, mais j'ai un peu mûri quand même. J'ai dit à mon père, papa, s'il te plaît, je peux aller au Beth Knesset? Il m'a dit, non, t'es trop petit maintenant. On va attendre que tu grandisses. Je me rappelle plus de tous les détails, s'il attendait que j'ai 10 ans ou 11 ans. En tout cas, il m'a dit, on attend que tu grandisses. Non, non, le Beth Knesset, c'est un endroit, c'est vraiment pour les grands, c'est un endroit sérieux, etc., etc. Et moi, je bavais tellement que j'avais envie d'aller au Beth Knesset. Mon père dit, non, pas encore. Et puis, comme ça, à chaque fois, quand je lui demandais, il me répétait, non, c'est pour les grands, non, c'est pour les grands. Jusqu'au jour où il a senti que j'étais prêt. Et là, j'allais au Beth Knesset, j'étais ainsi de façon impeccable. J'écoutais du début jusqu'à la fin. Il n'était même pas question que je m'en aille. Un jour, mon père, il m'a dit, tu veux que je t'explique, c'était quoi ma méthode? Ma méthode a été très simple. J'ai vu que tu allais au Beth Knesset, tu ne te rendais pas compte de la grandeur du Beth Knesset. Alors je me suis dit, on va, entre guillemets, te priver de Beth Knesset. Pourquoi? Pour que tu aies envie d'aller au Beth Knesset, que tu comprennes, c'est un mérite. C'est pas papa, il m'a obligé, il m'a obligé, il m'a obligé, après l'enfant à 15 ans, il jette tout. Non, c'est papa, il m'a pas obligé. Papa, il m'a jamais obligé à aller. Et c'est moi qui ai voulu et c'est moi qui ai supplié jusqu'au jour où il a eu la gentillesse de bien vouloir. Et ça a fait ses fruits. Quand j'ai dit à mon père, papa, j'aimerais mettre la cravate, j'avais l'âge de la bar mitzvah, quelque chose comme ça, il m'a dit, écoute, je t'oblige pas. Je veux pas que tu penses une fois que je t'oblige. Vous savez, la cravate, souvent, c'est étouffant. Je veux pas que tu penses, je dis papa, mais j'ai envie moi de la mettre. Il m'a dit vas-y. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que ça m'arrive souvent de mettre la cravate. Pourquoi? Parce que il m'a pas obligé. Maintenant, ce que je voulais vous dire là, c'est cette idée-là. Quand, pendant toute cette période-là, nous avions qu'une envie, la vérité, c'était quoi? C'était de pouvoir enfin retourner au Beth Knesset, de retrouver le tzibourg, de retrouver la communauté, de retrouver plein de choses. Il y en a, par exemple, ça leur a manqué la dame Hout du Shabbat matin. Et d'autres, il y a d'autres choses qui leur ont manqué. Il y en a leur tabac là, ça leur a manqué. Et quoi? Et on se trouve en toute cette période-là sans ça. Qu'est-ce qu'on doit ressentir pendant cette période-là, à mon avis? En tous les cas, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. C'est, ça nous manque. Ça nous manque ce Beth Knesset. Cette année, c'était terrible. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Méron, mais c'était terrible de voir Méron le jour de la joie de l'Akba Omer, tellement vide. En général, il y a des dizaines de milliers de personnes. Tellement vide. Rabbi Shimon Ohel n'a même pas eu le mérite d'avoir beaucoup de gens qui sont venus se réjouir. Mais c'était Retzon Hashem cette année que ça se passe comme ça. Mais c'était terrible de voir ça. Les gens cette année, ils avaient une grande envie de pouvoir aller à Méron. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les kisufim en hébreu. On est midgar gea, on attend, on s'impatiente, on languit cette chose-là. Et ça, c'est un point qui doit être très important. Pendant toute cette période-là, ce qu'Hachem attend de nous, tant qu'on ne peut pas encore retourner au Beth Knesset, c'est qu'on languisse le Beth Knesset. Et quand enfin on pourra commencer à remettre nos pieds là-bas, il ne faut pas qu'on les remette avec la même indifférence qu'on les mettait à l'époque. Parce que vous remarquerez dans la vie que quand tout va bien, tout va trop bien, eh ben on arrête de remercier. C'est normal, c'est bien normal, ça va, je travaille, c'est normal que j'ai de l'argent. D'un coup, quand plus rien ne va, c'est là qu'on commence enfin à réaliser que le fait de respirer normalement sans machine, c'est un cadeau. Et que le fait de pouvoir avoir des enfants en bonne santé, c'est un cadeau. Et que le fait de, et le fait de, et le fait de. Là, Kadosh Baruch Hu nous a mis une grande claque à la figure, à nous tous, à l'humanité tout entière, pour nous dire rien n'est de normal. Rien n'est normal. Que le monde fonctionne, c'est pas normal. En un instant, je peux arrêter le monde. Et au moment où on va enfin pouvoir retrouver Bezrat Hashem, le Beth Knesset, le Beth Amigdash, j'espère, Bezrat Hashem. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut qu'enfin, on s'aperçoive. C'est pas si évident que ça qu'on puisse avoir le mérite d'aller au Beth Knesset. Et plus on a langui, plus cette période-là, elle est longue, elle est embêtante, elle est difficile, plus Bezrat Hashem, quand on retrouvera enfin les bancs des Beth Knesset et des Beth Midrashot, enfin, on pourra, Bezrat Hashem, retrouver le plaisir et le goût qu'il y a dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans le bonheur de réciter une Gdusha. Donc, il faut absolument qu'on se rappelle bien que cette période-là, c'est une période de réflexion, c'est une période d'introspection. Il y a tellement de gens qui m'ont dit que pendant cette période-là, ils n'avaient rien d'autre à faire à part s'introspecter. C'est une bonne chose. En général, c'est les gens d'un haut niveau qui fonctionnent de cette façon-là. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas un haut niveau, ils ont un niveau qu'on appelle le niveau K, le K-niveau. Et ces gens-là, au lieu de réfléchir et de se poser des questions, ils passent ce temps-là à regarder les informations heure après heure, jour après jour, etc. Donc, il faut savoir ce point important. Il faut savoir que cette période-là, s'il y a un point positif qu'elle aura pu nous apporter, c'est enfin nous permettre qu'on retrouvera, Bezrat Hashem, tout notre Yiddishkeit, tout l'accomplissement des mitzvot, qu'on puisse le faire avec joie. Mais le point plus précis que je voulais vous dire, et c'est un grand, grand chidouche que les gens ne connaissent pas suffisamment, ça consiste à dire la chose suivante. Pendant cette période-là, tant qu'on ne peut pas encore retourner dans les Beit Midrashot complètement, qu'on ne peut pas encore retourner dans les Beit Knessiot, qu'est-ce qui doit être notre sentiment? Et on l'a dit, le sentiment qu'on doit avoir, c'est un sentiment de guirgouine, un sentiment de languissement, même si on n'est pas des anguilles. Languissement, c'est le sentiment qu'on doit nous tous avoir. Pourquoi c'est un sentiment qu'on doit avoir? Parce que Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Et si vous voulez, je vous dis un chidouche, après je vous le prouve. C'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère l'envie qu'on a de pouvoir enfin retrouver le Beit HaKnesset au fait qu'on soit dans le Beit HaKnesset. Écoutez bien le chidouche. Nous, on dit, écoute, Hachem, il veut qu'on soit au Beit HaKnesset, mais comme on ne peut pas, alors on languit. C'est normal, on est des êtres humains. On est doués de sentiments. Donc c'est normal qu'on languisse. Non, de languir, c'est une avodat Hashem. Et Hashem, il est heureux de cette avodat Hashem. Quand cette avodat Hashem, on dit Hashem, Hashem, on aimerait tellement enfin pouvoir, on aimerait tellement retrouver les Beit Knessiot, on aimerait tellement pouvoir s'embrasser à nouveau les uns les autres, on aimerait tellement. Eh bien, ça, c'est une avodat Hashem. Je vous le prouve tout de suite, Bezrat Hashem. Vous savez que parmi les textes de Chazal, il y a plusieurs shirot qui ont été entonnés dans l'histoire du peuple juif. Shiratayam. Vous imaginez la beauté de la Shirat Hayam, le peuple juif qui vient de sortir d'Égypte, avec tous les miracles qu'il a vus en amont, en aval et partout. Et quoi? À ce moment-là, il chante. Très très belle Shira. Il y a un autre chant qui est encore plus beau que ce chant-là. Il s'appelle le chant des chants, le cantique des cantiques. Shir Hashirim. Et Rashi dit, au tout début du Shir Hashirim, je vous le dis rapidement, Shanu Rabotenu, Chachamim ont enseigné. Kol Shlomo Amourim Beshir Hashirim, à chaque fois qu'on emploie le terme Shlomo dans Shir Hashirim, Meler She Hashalom Shelo, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Shir Sheual Kol Hashirim Asher Neymar la Kadosh Baruch Hu Met Adato Ve'amo Knesset Israël. C'est le chant le plus beau qui ait jamais été prononcé par le peuple juif. Jamais il y a eu un chant qui était aussi beau qui a égalé celui-ci. Amar Rabbi Akiva a dit, Lo Haya Olam Kedai Ke Yom Shenitan Bo Shir Hashirim Le Israël. Il n'y a jamais eu un jour qui valait plus le coup d'être vécu que le jour où le peuple d'Israël a entonné le Shir Hashirim. Chez Kol HaKtuvim Kodesh, Veshir Hashirim Kodesh Kodashim. Tous les chants, ils sont saints, mais Shir Hashirim, c'est le saint des saints. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, et ce ravi dit, les mains d'avoir domé à quoi la chose ressemble, les ménères chez Natal, c'est Achitim, Netanel et Nartom, Amar Lot Sili Kar ve Kar Solet, Kar ve Kar Soubine, Kar ve Kar Mursan, ועלית מתוכה גלוסקה אחת מנופה ומעולה, כל כוח הכתובים שיר השירים, קודש ושיר השירים, קודש קודשים, שכולו יראת שמיים וקיבול עול מלכותו. Il dit, c'est quelqu'un qui a reçu une farine. Et dans la farine, il y avait plein de petits cailloux, il y avait plein d'écorces qui restaient, etc. Il dit, non, retire toutes les saletés. Moi, je veux avoir le top du top. Je veux avoir une bonne farine. Dit Rachamim, tous les chants, ils sont bien, mais ils ne sont pas aussi purs, aussi parfaits que le Shir Hashirim. Shir Hashirim, c'est le chant parfait par excellence. Qu'est-ce qu'il y a de tellement parfait dans ce chant? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Eh bien, au tout début de Shir Hashirim, on dit « Yishakeni mine shikod piu, kitovim dodecha miyain ». On dit à Kadosh Baruch Hu, on attend une chose, c'est que Kadosh Baruch Hu nous donne un baiser d'amour. Toute notre attente, c'est que Kadosh Baruch Hu nous donne un baiser. Et là vient Rashi à nouveau. Et il dit comme ça, Zé Ashir Omered Bepia Begaluta Ube Almanuta. Ce chant-là, quand est-ce qu'il est entonné par le Klal Israël? Lorsque le peuple juif est veuf, lorsque le peuple juif est en galoute, en exil. Et qu'est-ce que le peuple juif chante à ce moment-là? C'est quoi ce Shir Hashirim? Mi iten Veishakeni Ameler Shelomo Mineshikot Piu, Komo Me'az. Combien on aimerait que le Meler Shlomo, le roi Shlomo, on a dit, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Combien on aimerait que Kadosh Baruch Hu nous refasse des baisers comme il nous faisait à l'époque. Chez Noshkim, les fiches Yesh Mekomot, chez Noshkim al Gavayad, ve al Akatef. Parfois, quand on embrasse quelqu'un, on l'embrasse sur la main. Parfois, on l'embrasse sur l'épaule. C'est plus très à la mode, ça. Peut-être qu'après le corona, ça deviendra. Achani mitave veshokeket liot noegimi kemina garishon kechatan el kala PLP. C'est chose que je vous dis maintenant. Mais c'est Rashi. J'ai pas dit Rachid. Rashi. Rashi, il dit, c'est quoi l'attente du peuple juif? C'est de dire à Hachem, nous, on veut un bisou dans la bouche. Comme un khatan et une kala. C'est ça qu'on attend. Pas des petits baisers comme ça, genre baiser et va-t'en. Non, on veut véritablement un bisou. On veut un bisou d'amour. Dis Chazal, quand l'homme dit à Kadosh Baruch Hu, quand la Knesset Israël, l'Assemblée Israël dit à Kadosh Baruch Hu, Shir Ashiri, Masher Lishlomo, Ishakeni, Mineshikot Piyu, on aimerait que tu nous embrasses. On fait allusion à la situation dans laquelle on est en exil, et dans la situation dans laquelle on a perdu le Beth Amikdash, et dans laquelle on est roué de coups par nos ennemis, et dans lesquelles on est complètement perdu par la folie d'Internet, et dans laquelle on est complètement fichu. Et à ce moment-là, on vient et on dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, on attend une chose. On aimerait retrouver le Beth Amikdash, voir la providence divine, avoir droit à ces enlacements-là auxquels on avait le droit à l'époque. C'est ça qu'on attend. Viennent Chazal et disent, c'est ça qu'il y a de particulier dans Shir HaShirim. C'est que c'est le Shir qui est chanté en plein exil. Maintenant, viennent Chachamim et posent une question très forte. Il dit, je comprends pas, j'aimerais comprendre. Le peuple juif sort d'Égypte. Il a vu des miracles grandioses et gigantesques. Il a maintenant une envie de commencer à chanter du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu. C'est un chant qui sort du plus profond de l'être humain. C'est un chant qu'on n'arrive même plus à contenir, à retenir. Vous êtes bien d'accord que ce chant, il est quand même plus beau que le chant qu'on dit quand on est roué de coups, que le chant qu'on dit quand on n'en peut plus, qu'on est au bord du désespoir, qu'on est devant un précipice profond et qu'on dit « Hachem, Hachem, ne nous oublie pas, on aimerait avoir un petit baiser ». Vous êtes bien d'accord que c'est plus fort? Dis Rachamim, tu vois que non. Quand tout va bien et que tu chantes, ok, c'est bien. Mais c'est pas ça qu'Hachem attend. Hachem, il attend que quand ça va pas, et que tu pourrais, Chas Veshalom, te désespérer, qu'à ce moment-là, tu dises à Kadosh Baruch Hu, j'attends ce bisou, j'aimerais ce bisou. Et ça, c'est le chant que Kadosh Baruch Hu aime. Attention, bientôt, Bezrat Hashem, il y aura le Mashiach. Bientôt, on va aussi chanter énormément quand il y aura le Mashiach. Mais ça vaudra peut-être pas autant que ce que ça vaut quand, avant que le Mashiach arrive, dans la situation dans laquelle on est, quand on dit Hashem, Hashem, on aimerait un bisou. Hashem, on aimerait que les Beth Knessiot se réouvrent. Hachem, on aimerait enfin pouvoir recommencer à étudier la Torah normalement, pas avoir besoin d'être à la maison avec les enfants qui nous empêchent d'étudier, et les machins, et ceci et cela. On aimerait à Kadosh Baruch Hu. Et bien ça, c'est le grand, grand, grand chidouche de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous apprend ici que la grande volonté d'Akadosh Baruch Hu de notre part, c'est qu'on veuille, qu'on souhaite. Quelqu'un aimerait par exemple être meilleur, et il a du mal, mais il essaye, il espère, il prie pour ça. Ça en soi, ça réjouit beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Nous, on est dans une génération dans laquelle on regarde que les résultats. Et souvent, les résultats, c'est pas génial. Mais c'est complètement faux. Ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, c'est l'envie. L'envie la plus profonde, la Ishtok Ekout. Qu'est-ce que l'homme aimerait vraiment? C'est quoi son véritable désir? Son plus ardent désir? Et bien ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on n'oublie jamais que le juif, ce qu'Hachem attend de lui, c'est qu'il veuille devenir meilleur, qu'il veuille devenir plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'il veuille retrouver les bateaux Knessiot ouverts, les bateaux Midrashot ouverts. Un jour, quelqu'un m'a dit, et si j'ai pas envie? Si j'ai pas envie, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je lui ai dit, eh ben, il faut que tu veuilles avoir envie. C'est très simple. Il faut que tu veuilles avoir envie. Ça, on le dit souvent. Quelqu'un, il dit, si j'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, prie. Mais je dis que j'arrive pas à prier. Non, prie de réussir à prier. Demande à Hachem qui t'aide à pouvoir bien prier. Nous, on est dans une génération dans laquelle, et Chazal, ils ont déjà prévenu, que la génération d'avant, le Mashiach, ça serait une génération dans laquelle on a le lève à Even. On a un cœur qui est dur, qui est durci. Un cœur qui, on a du mal à avoir des sentiments. Et les seules fois où on a des sentiments, c'est des sentiments souvent malades qu'on a. On a du mal. On a du mal aujourd'hui. On est capable de pleurer quand on prie. On est capable de s'émerveiller face à quelqu'un qui accomplit une mitzvah. Aujourd'hui, on est dans une génération un petit peu radée pâquerette. Simplement, il faut qu'on comprenne une chose. C'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, même si on ne veut pas vraiment, c'est qu'on veuille vouloir. Et c'est déjà quelque chose. Il y a écrit, je m'arrêterai sur ça, que tout homme est obligé de dire « Matai yagiu ma'asai le ma'asai avotai Avraham, Yitzhak ve Yaakov ». C'est-à-dire que moi, le petit minable, tous les jours, j'ai l'obligation de me dire, attention, il n'y a pas écrit Ishtadel, il y a écrit Chayav Adam Lomar, l'homme a l'obligation de dire, Matay Agiu Maasai le Maasai Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Quand est-ce que mes actes arriveront à ceux de Avraham, Yitzhak et Yaakov? En arabe, on appelle ça Chalom Tov, Chalom Shalom. Va redormir, laisse tomber. Pourquoi? Comment tu veux, moi, que j'arrive au niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mais tu sais, c'était qui Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'était pas Lucky Luke, hein, c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est difficile d'arriver à leur niveau. Et on dit, t'es obligé de te demander quand est-ce que tu vas arriver. Bizarre. Alors, il y en a qui ont voulu dire que Matay Yagiou, le terme Yagiou, ça vient du terme Negia. Quand on veut dire en hébreu effleurer quelque chose, on dit la gâte. J'ai touché ce verre. J'ai touché mon cahier. Negia, ça ne veut pas forcément dire atteindre complètement. Ça ne veut pas forcément dire trouer la feuille du papier. La gâte, ça veut dire toucher. Chachamim, certains de Chachamim ont voulu dire que ce qu'il faut que tu te demandes, c'est quand est-ce que tes actes commenceront un petit peu à frôler ceux de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Arriver, laisse tomber, tu n'arriveras pas. Mais au moins que tu aies l'aspiration que ça frôle. Parce que ça, c'est possible. On est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On peut tendre un petit peu vers leur perfection. Mais fort de tout ce qu'on a dit maintenant, on peut comprendre ça de façon beaucoup plus profonde. On peut comprendre que c'est vrai que tu n'arriveras pas. Et alors, ça ne t'empêche pas de vouloir. Ça ne t'empêche pas d'avoir cette aspiration. Ça ne t'empêche pas de te dire combien ça aurait été bien que je sois grand comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Attention, ne désespère pas. Ça ne va pas être une raison maintenant que tu te désespères complètement et que tu ailles faire des bêtises. Mais simplement, cette envie-là, quand le juif se dit « j'aimerais, Bezrat Hashem, être un bon juif », quand le juif se dit « j'aimerais être moi comme Avraham, Yitzhak et Yaakov », eh bien en soi, cette intention-là, elle est bonne, elle est positive et elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce que je voulais vous dire, Bezrat Hashem, que rapidement le Mashiach revienne, qu'on ait le droit à des chassadim et goulim, qu'on retourne avant même les Bet Knessiot directement dans le Bet Amikdash, qu'on ait là-bas le top du top, et Bezrat Hashem, qu'on puisse enfin ressentir c'est quoi la Shrina Akdosha. Toutes ces réalités dont on parle et qui sont plus ou moins patentes, un jour elles deviendront une réalité, Bezrat Hashem, incontestable, irréfutable. Et qu'on ait le mérite d'arriver en étant prêt, Bezrat Hashem, avec des vêtements tout clean, tout propre, avec des pensées toutes claires, toutes propres, avec des appareils pas trop technologiques, en tous les cas s'ils le sont trop, qu'ils soient au moins cachers, un minimum, et que Bezrat Hashem, on arrive comme ça à recevoir le Mashiach. Merci de votre attention et à très bientôt.